Donc, en fait, pendant assez longtemps, j'ai hésité entre plusieurs disciplines, notamment la musique et les sciences. Et j'ai décidé de m'orienter plutôt vers les sciences juste après le bac, quand je suis partie en classe préparatoire. Et je ne sais pas si c'est vraiment un choix qui était par goût ou parce que j'avais des facilités dans ce domaine. Et voilà, je crois que j'ai vraiment réalisé que j'avais un goût pour les sciences en classe préparatoire et surtout après à l'école normale où j'ai eu des profs super passionnés et super passionnants.
Et dans le cadre professionnel, quel a été votre parcours?
Donc après ma thèse, je suis rentrée au CNRS comme chargée de recherche, qui était une super opportunité parce qu'on a beaucoup de temps et beaucoup de flexibilité pour réfléchir à des problèmes un peu difficiles. Et puis ensuite, je suis passée professeure à l'université à Paris. J'étais quelques années à l'école normale à Paris et maintenant je suis à l'école normale supérieure à Lyon.
Alors, vous avez été élu à l'Académie des sciences en 2013. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette élection?
Je pense que la première chose qu'il faut que je dise, c'est que j'ai été très surprise de cette élection. Je ne m'y attendais absolument pas. Pour moi, c'était une reconnaissance plus de fin de carrière, enfin en tout cas de gens qui étaient déjà assez seniors et très reconnus dans leur discipline. Donc j'ai été à la fois impressionnée, évidemment ça fait plaisir, mais aussi un petit peu gênée par rapport à certains collègues. Et voilà, et aujourd'hui avec un petit peu de recul, que je pense, c'est que c'est évidemment une distinction, mais c'est surtout, je pense, une possibilité de se mettre au service de la communauté scientifique, voilà, d'insuffler peut-être des idées, de travail aussi interdisciplinaire que j'apprécie beaucoup.
Quel est le domaine de votre spécialité?
Donc moi, je suis mathématicienne et je travaille à l'interface avec la physique, qui a toujours été une discipline qui m'interroge beaucoup puisque c'est partir de l'observation du monde réel. Après, je ne suis pas physicienne parce que j'ai sans doute moins d'intuition que certains de mes collègues et j'apprécie la démarche du mathématicien qui est vraiment dans la rigueur, dans le fait de comprendre toutes les articulations logiques. Donc voilà, je travaille vraiment à la limite de ces deux disciplines, plus particulièrement ce qu'on appelle les équations aux dérivées partielles, c'est-à-dire qui permettent de modéliser la dynamique, le mouvement, l'évolution de certains systèmes physiques, notamment des fluides et puis des gaz.
Comment travaillez-vous?
Alors ça, c'est une question qui est très compliquée parce que c'est difficile même soi-même d'analyser ce qui se passe dans notre cerveau quand on fait de la recherche. Mais je pense qu'il y a quand même des choses que peut-être je peux partager. D'abord, j'aime beaucoup travailler en équipe, ce qui n'est pas forcément toujours le cas pour les mathématiciens. Dans les sciences expérimentales, c'est une évidence, mais sur des sciences plus théoriques, c'est moins clair. Parce que je trouve que ce travail d'équipe permet de formuler et de faire grandir des idées en fait en s'obligeant à mettre des mots dessus, en s'obligeant à essayer de les partager avec d'autres. Donc c'est vraiment une façon de travailler que j'apprécie beaucoup. Évidemment, ça n'empêche pas qu'il y a un moment où il faut aussi se mettre seul face à sa feuille et essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, comment elles s'articulent. Ça n'empêche pas non plus qu'après, une fois qu'on a trouvé des résultats, il y a toute une partie qui est plus de rédaction, de présentation à l'oral. Je pense que voilà, on ne peut pas concevoir de la recherche sans concevoir la partie de communication, parce que ça ne sert à rien de faire de la recherche pour soi tout seul.
Alors, ce que vous étudiez, les mathématiques en général, prennent-elles plus de sens dans l'application avec d'autres sciences comme la physique des plasmas, par exemple?
Je ne sais pas si on peut dire qu'elles prennent plus de sens. Personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse plus parce que d'une part, je trouve que ce qui se passe, ce qu'on observe, peut donner une intuition aussi, même si le langage des mathématiques est un petit peu différent du langage de tous les jours. qui se passe dans la réalité peut donner des intuitions de ce qu'on peut faire avec des mathématiques. Et puis parce que j'aime bien cet aller-retour entre la physique et les mathématiques. Maintenant, je ne suis pas sûre que cela donne du sens aux mathématiques. Je pense qu'il y a des mathématiques beaucoup plus abstraites, beaucoup plus, qui ont du sens quand même. Et le sens n'est pas forcément à chercher dans l'application. Pour moi, dans la science, comme dans l'art, il y a toute une dimension esthétique, une dimension de rigueur, une dimension de créativité qui sont un petit peu réduites, je trouve, si on commence à dire que la science a pour but d'avoir des applications et de la technologie. Ça n'empêche pas, bien sûr, mais je pense que c'est important de garder aussi cette idée que dans la science, il y a toute une partie qui est beaucoup plus créative et qui n'a pas forcément besoin pour se justifier d'applications directes.
Je vais prendre quelques repères avec vous, notamment à ce que l'on entend en mathématiques. Qu'est-ce qu'une théorie en mathématiques ?
Donc, c'est une question qui est un petit peu délicate. On parle facilement de théorie, notamment en physique, parce qu'en fait, chaque théorie fonctionne avec un ensemble d'axiomes. Donc, il y a la mécanique classique, il y a la mécanique quantique, il y a la relativité générale. Et on a un certain nombre d'axiomes qui ne sont pas forcément d'ailleurs compatibles entre eux. Donc, il faut voir dans quelles limites ces théories sont compatibles. En maths, c'est un petit peu différent parce que quelque part, l'objectif, c'est de travailler avec le moins d'axiomes, le moins d'hypothèses possible, d'avoir quelque chose qui est le plus auto-contenu possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro hypothèse. Souvent, on fait, par exemple, moins l'axiome du choix. Mais ça veut dire que, voilà, qu'on essaye de ne pas avoir des résultats qui seraient des résultats conditionnels. Donc, je pense que l'approche qu'on a est un petit peu différente. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de théorie du tout et que c'est un vaste champ sans aucun repère. Donc, je peux parler de la partie des mathématiques que je connais un petit peu mieux, qui sont donc les équations aux dérivées partielles, une partie de l'analyse. Et évidemment, dans l'analyse, il y a eu des tournants importants. Dans les équations que je regarde de plus près, qui sont les équations des fluides ou les équations des gaz, il y a des tournants très importants. On ne peut pas ne pas citer Euler ou Navier-Stokes pour les fluides. On ne peut pas ne pas citer des gens comme Boltzmann ou comme Maxwell pour tout ce qui est théorie cinétique des gaz. Donc voilà, évidemment, il y a des paliers importants, mais j'aurais du mal à dire qu'on peut vraiment parler de théorie. Et moi, quelque part, ce qui m'intéresse vraiment là-dedans, c'est de comprendre justement comment différents modèles peuvent se raccrocher les uns aux autres. Donc, il y a une partie importante de mon travail qui a consisté justement à relier tous ces modèles pour les gaz qui sont des gaz peu denses, donc des gaz comme on a dans la haute atmosphère ou aussi un petit peu l'air, à des modèles fluides qui sont des modèles quelque part plus simple, notamment à simuler numériquement. Et voilà, donc moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment justement de faire des ponts entre ces différents niveaux de modèles et justement à ce que les choses ne soient pas compartimentées.
Qu'est-ce qu'avoir l'intuition en mathématiques ? Qu'est-ce que cela signifie, l'intuition en mathématiques ?
Donc, je ne sais pas s'il y a une réponse générale à cette question. Je pense que ça dépend. Il y a autant d'intuitions que de gens qui font des mathématiques. Pour moi, la question de l'intuition, c'est une question de devenir familier avec des objets. Et en mathématiques, certains de ces objets sont des objets qui sont assez abstraits. Donc ça veut dire que pour avoir de l'intuition, il faut côtoyer beaucoup ces objets, les remuer dans tous les sens, les regarder. Lire beaucoup, s'aider aussi des idées que se font de ces objets d'autres gens. Et voilà, c'est à force de les regarder sous toutes les coutures et de que je pense qu'on finit par se faire sa propre intuition, sa propre représentation des choses. Hein. Et puis après, à faire justement des connexions avec d'autres choses qu'on connaît. Et voilà, la recherche, elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne parce qu'on réussit à remettre tous les morceaux de puzzle les uns avec les autres. Mais voilà, pour arriver à faire ce puzzle, je pense que quand on parle d'intuition, c'est cette première étape de la démarche qui est d'arriver à vraiment bien se représenter les objets. Et se représenter un objet abstrait, c'est parfois compliqué. Je pense que c'est l'endroit où beaucoup de gens s'arrêtent, hein, notamment les gens qui ne font pas des sciences de façon plus poussée. On voit qu'il y a des gens qui sont un petit peu allergiques. Et je pense que c'est quelque part, c'est qu'ils n'ont pas forcément pris le temps de devenir familiers avec ces objets. Et je pense que ça, c'est important.
Avoir l'esprit mathématique, qu'est-ce que cela représente pour vous ?
Alors, la réponse la plus évidente, c'est celle que vous ferez, je pense, n'importe qui, si vous lui demandez ça dans la rue, c'est avoir l'esprit logique. Donc, avoir une capacité de raisonnement, de déduction, de comprendre comment les choses s'articulent. Et évidemment, c'est à la base du raisonnement mathématique. Et pour moi, il y a autre chose. C'est ce que j'ai mentionné un petit peu dans une question précédente. Il y a cet aspect presque artistique, très esthétique. Donc il y a les maths, c'est du raisonnement, mais c'est un langage. Et voilà, il faut apprendre à se servir de ce langage, à le parler. Alors c'est un langage qui à première vue semble un peu plus barbare qu'une langue étrangère plus classique. Mais voilà, je crois que vraiment l'idée, c'est d'arriver à formuler des choses qui sont des concepts, qui sont des articulations logiques entre des concepts, et puis aussi des nouvelles idées, des choses originales. Enfin, voilà, donc je ne sais pas très bien comment on pourrait qualifier l'esprit mathématique. Il y a beaucoup de mathématiciens qui sont tous très différents les uns des autres. Mais je pense que c'est important de souligner qu'au-delà de l'aspect un petit peu rigide, peut-être de l'aspect très rationnel que les gens assimilent aux mathématiques, il y a aussi quelque part un petit peu de fantaisie.
Alors, que vous inspirent ces grands mathématiciens ? Henri Poincaré.
Je pense que Henri Poincaré est quelqu'un que je trouve extrêmement impressionnant par la largeur de son spectre scientifique. C'est quelqu'un qui a touché à beaucoup de mathématiques, à un peu de physique. Voilà, moi, ce que je trouve très à la fois impressionnant et dans un rôle de modèle, c'est cette ouverture d'esprit. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, comme la science devient de plus en plus pointue, on a tendance un petit peu à perdre cette idée d'essayer d'avoir des compétences transverses, et je trouve ça dommage. Donc voilà, ça, je pense que ça, c'est quelqu'un qu'on doit garder probablement en tête, avec beaucoup de scientifiques, je dirais, des siècles précédents, qui avaient cette compétence très large en maths, en physique, voire en philosophie. Enfin voilà, c'était...
C'est la dimension du savant complet qui disparaît, qui a tendance à disparaître de par la spécialité.
Bah, de par l'accumulation de la quantité de données à assimiler, voilà, je ne crois pas qu'on ait le cerveau plus grand, enfin, en tout cas certainement, si on compare avec Poincaré, ça va être compliqué, mais même, enfin, il n'y a pas de raison que notre cerveau fonctionne beaucoup mieux, beaucoup plus vite que ceux de nos prédécesseurs, et donc il y a un moment où juste on est limité par... Parce qu'on a le temps d'apprendre, ce qu'on a le temps de lire, toute cette science qui foisonne. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de scientifiques est aussi beaucoup plus grand. Et donc, ça fourmille de partout. Mais après, je trouve ça dommage de se surspécialiser. Parce que je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de science qui se comprend et qui se construit aux interfaces et en faisant des ponts, en comprenant des analogies, et donc voilà, je pense que oui, il faut garder encore cette idée de rester ouvert à un domaine relativement large de science.
Grégory Perelman.
Alors c'est quelque part c'est pas une caricature de mathématicien, mais quand même un personnage très particulier, puisque notamment il travaille très en solitaire, très loin de toutes les distinctions. Donc à la fois je trouve ça appréciable que les gens travaillent vraiment pour la science et pas pour pas dans une espèce de star system qu'on met de plus en plus en avant. Je trouve qu'il y a dans cette démarche quelque chose qui me plaît, quoi, de rester vraiment focalisé sur le contenu de la science, hein. Et par contre, il y a quelque chose qui, moi, que j'ai du mal à comprendre, qui est cet aspect très solitaire. Moi, j'aime beaucoup travailler en équipe. Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre des autres et beaucoup à. Et voilà. Alors après, je ne le connais pas du tout personnellement. Peut-être qu'avec son entourage, il a volontiers des discussions, des collaborations. Mais l'image que j'en ai, moi, c'est de quelqu'un qui est un peu dans sa tour d'argent. Et c'est pas ce dont je rêve. Voilà.
Mariam Mirzakhani.
Donc, évidemment, elle a été mise beaucoup en avant, puisqu'elle a été la première femme et la seule à ce jour à recevoir la médaille Fields. Je ne sais pas si. Je ne sais pas comment elle a vécu ça. Je n'aurais pas trop envie de partir, voilà, sur ces histoires de prix. Je trouve que le prix est une bonne chose pour dynamiser la communauté scientifique, pour encourager des jeunes à aller d'avant. Après, il y a beaucoup de déviances possibles dans la façon dont ça change le statut des gens, en fait, et ça change leur relation par rapport au reste de la communauté. Bon, je pense pas que Mariam était du tout quelqu'un qui voulait se mettre sur un piédestal. Je connais pas bien les maths non plus qu'elle a fait, puisque c'est des systèmes dynamiques, pas très loin de l'analyse, mais quand même pas si près, donc je peux pas du tout comprendre ce qu'elle fait. L'image qu'elle laisse, enfin, l'image de quelqu'un qui est parti trop tôt, c'est l'image de quelqu'un justement qui a beaucoup cette intuition, beaucoup de représentations très personnelles des choses, de comprendre, de faire des petits dessins dans tous les sens et d'arriver à partir de ça à se construire toute une représentation personnelle des choses et aller vraiment plus loin que ce qui existait déjà. Et voilà, dans cette démarche scientifique, je pense qu'elle est effectivement un modèle. Elle est aussi un modèle parce que elle est une femme, et elle est une femme issue d'un pays qui est quand même pas, qui fait pas forcément la promotion des femmes très fortement. Mais qui a en même temps une tradition scientifique importante, et je trouve que c'est bien de s'en souvenir à une époque où aujourd'hui on commence à transférer les scientifiques presque comme les joueurs de foot. Et donc c'est pas parce que la plupart des scientifiques sont en poste aux États-Unis que voilà, il n'y a pas de la science qui se fait ailleurs, et de la science aussi de très très haut niveau. Voilà, donc je trouve qu'à plein d'égards, voilà, c'est quelqu'un qui a marqué et marquera l'histoire des mathématiques. Mais voilà, moi, voilà, pour l'avoir rencontré une ou deux fois, ce que je trouve intéressant vraiment, c'est sa façon de travailler, sa façon de toucher, se faire cette intuition en mathématiques.
L'époque que la communauté des mathématiciens, des mathématiciennes vit aujourd'hui, vous semble-t-elle être l'aube ou le crépuscule de grandes découvertes?
Je répondrai pas à la question comme ça, parce que par essence, la recherche est quelque chose d'extrêmement imprévisible. Alors, vous voudrez nous expliquer le contraire, nous dire qu'il faut faire des projets, qu'il faut. Mais je crois que la plupart des découvertes, bien sûr, s'inscrivent dans une dynamique, dans une histoire, parce qu'il y a ça vient pas de rien du tout, mais il y a aussi toute une part d'imprévu et d'imprévisible, et je pense que c'est bien que ça reste comme ça. Donc, je ferai pas des spéculations sur le fait que la recherche était plus florissante hier ou qu'elle le sera plus demain. Je pense que aujourd'hui encore, il y a plein de gens qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de talents. Et donc, je ne suis pas très inquiète sur le fait qu'on peut continuer à avancer. Après, je pense que la communauté scientifique a à réfléchir sérieusement à la façon dont elle s'organise. C'est-à-dire que la communauté a beaucoup augmenté en taille, d'une part, et puis il y a beaucoup eu de pression sur le fait de publier plus, d'être très proactif, d'avoir des classements, des universités, des index bibliographiques. Donc toute une partie que je trouve un petit peu...
étouffante du point de vue de la quantité au lieu de valoriser la qualité.
Exactement.
En fait.
Qui fait que, en fait, les gens sont un petit peu coincés parce que, quelque part, pour survivre dans un système comme ça, on est obligé de rentrer un petit peu dedans. Et en même temps, on sait bien que si on ne prend pas son temps, on va générer des résultats, mais qui n'ont pas l'originalité ou la profondeur de ce qu'on pourrait souhaiter. Donc je pense qu'on est arrivé à un point probablement où la communauté scientifique doit réfléchir à la façon dont elle veut s'organiser, à ne pas se laisser complètement imposer la règle par l'extérieur, parce que je pense que de l'extérieur, notamment des gens qui nous gouvernent et nous financent aussi, hein, oui, donc c'est normal oui. qu'on doive leur... rendre des comptes, mais ils n'ont pas forcément cette idée du temps que prennent les choses et des conditions qui sont favorables à produire quelque chose de vraiment original et novateur. Donc je pense que voilà, il faut que la communauté arrive à la fois s'organiser elle-même et communiquer autour de ça. Pour se garder quand même cette tranquillité d'esprit, cette ouverture, ce fonctionnement qui, je pense, permettra de garder une recherche de qualité.
Les associations scientifiques et techniques vous semblent-elles une nécessité au sein de notre société ?
Alors, la réponse est très certainement. On peut regretter même que, je dirais, la science ne soit pas prise comme un morceau de la culture au même titre que les arts, la littérature. Donc, typiquement, si on va dans une communauté locale, une mairie, un département, il y a une programmation culturelle et il y a peu de programmation scientifique. Et je pense que c'est vraiment un problème, que c'est quelque chose qu'il faut changer. Il faut changer les mentalités, d'une part parce pour une première raison qui est peut-être très basique, qui est le fait qu'on vit dans une société qui est scientifique et technologique, qu'aujourd'hui on est entouré de sciences et de technologies, et que juste pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir avoir un avis un minimum éclairé, il faut avoir cette culture scientifique. Voilà, donc je pense que c'est la responsabilité de l'école, évidemment, mais aussi des collectivités locales et de garder ces aspects de vulgarisation et de communication scientifique. Après, je trouve ça très bien que des associations prennent le relais aussi et se fassent l'écho de cette nécessité. C'est une nécessité, puis aussi un plaisir, je pense. Enfin, je pense que c'est important que les gens comprennent que la science, c'est pas juste un truc très enquiquinant parce qu'ils ont un mauvais souvenir d'un cours de maths au collège. Enfin, donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect de communiquer autour du goût et du plaisir de la science. Hein. Et je salue le travail qui est fait par beaucoup d'associations. Et donc, j'en connais quelques-unes, La Main à la Pâte. Aussi, il y a des associations autour du Palais de la Découverte. Enfin, autour de... Donc, il existe déjà un certain nombre d'associations pour partager cette culture scientifique, notamment avec des jeunes aussi de milieux qui sont peut-être plus défavorisés. Il y a ceux qui ont accès parce que leurs parents sont d'apartie. Et puis, il y a tous ceux dont les parents ne sont pas d'apartie. parce qu'ils sont de milieux plus défavorisés ou parce qu'ils sont dans un autre milieu, juste qui fait, je sais pas, du journalisme, enfin voilà, quelque chose qui n'est pas en rapport avec la science. Et je trouve ça important que les enfants aient un regard sur la science qui n'est pas juste celui du cours à l'école. Donc qui est aussi peut-être plus dans la découverte, une expérience, pas une expérience de recherche évidemment, parce que la recherche nécessite tout un tas de prérequis qui ne sont pas accessibles facilement. Mais voilà, toucher du doigt comment la science se fait et quelle porte elle peut ouvrir et puis pourquoi elle nous entoure aujourd'hui dans la vie de tous les jours.
Pour finir, que conseillez-vous aux jeunes générations intéressées par les sciences en général et les mathématiques en particulier ?
Je pense que la première chose que j'ai envie de dire, c'est d'être curieux. C'est-à-dire que, bien sûr, on a un système en particulier en France qui est assez... système scolaire et éducatif qui est assez rigide. Donc on ne peut pas faire l'économie de quelque part, pour faire court, travailler bien à l'école, pour pouvoir avoir accès à ces métiers-là. Bon, peut-être que dans d'autres pays, c'est un peu plus souple, mais bon, il y a un moment où, de toute façon, il faut apprendre quelque chose. Mais je pense que au-delà de cet aspect un peu scolaire, il y a cet aspect d'apprendre aussi sur le tas, d'être curieux, de juste se poser des questions, de pas s'asseoir dans des certitudes. Et je pense que ça, même pour ceux qui ne veulent pas faire des sciences, c'est quelque chose qui est important, de rester un esprit en mouvement, de se questionner toujours, même sur ce qui semblait acquis, mais qui peut-être, si on le regarde d'une autre façon, on peut donner des nouvelles idées, des nouvelles pistes pour aller plus loin. Donc voilà, c'est un conseil plus particulièrement à ceux qui veulent faire des sciences, mais je crois que c'est un bon état d'esprit de rester ouvert à des choses qui ne sont pas forcément prévues, de se poser des questions, de vouloir comprendre, de ne pas se satisfaire d'explications pas convaincantes. D'aller dans ses retranchements, de pousser aussi les autres dans leurs retranchements, même de façon polie et gentille, hein, c'est pas la question, mais voilà, de pas penser que les choses sont gravées dans le marbre une fois pour toutes.